Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! 32 km, 36 000 brasses, dans une superficie de plus de 1000 km². Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, la traversée du lac Saint-Jean, de Péribonka à Robertval.
Possible, bien sûr, d'assister à cette fameuse traversée du lac Saint-Jean. Et ce matin, je vous avoue que sur le quai de Péribonka, j'étais presque aussi excité, je pense, que les nageurs. Parce que si quelqu'un m'avait donné une poussée, je les aurais bien accompagnés, peut-être un 200-300 pieds, monsieur le président. Mais personne ne m'a poussé, heureusement.
La voix de Pierre-Éliott Trudeau, c'était lors de la 15e édition, le 30 août 1969. Pour les nageurs en eau libre, c'est un marathon culte. 32 km dans les eaux froides du lac Saint-Jean, véritable mer intérieure au caractère imprévisible. À l'origine, une idée un peu folle, celle de Martin Bédard, résident de Robertval, qui caresse le rêve d'organiser une grande course d'une rive à l'autre. Le 23 juillet 1955, 7 nageurs s'élancent du quai de Vauvert, direction Robertval. Un seul brave termine le marathon, mais c'est le début d'une longue tradition.
Maintenant, on regarde sur la tribune d'honneur. Les officiels sont là, évidemment, comme tout le monde. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont là ce soir. Les nageurs sont à l'eau et le signal de départ devrait être donné incessamment alors qu'on entend les cloches de l'église annoncer bientôt le départ. Alors, tous les nageurs maintenant se sont alignés sur une ligne imaginaire devant le quai de Robertval. On rappelle qu'ils sont 6 dans le bain. Combien y en aura-t-il qui vont rallier le quai de Robertval demain en fin de matinée? Ça reste une chose à déterminer. Alors, vous entendez la foule qui fait le décompte. Et voilà, le pétard vient d'être lancé. Les nageurs à l'assaut maintenant du Pyeongchang. Et ils passent devant nous dans un tourbillon d'écume. Et avec toute la puissance de leurs bras, ils entament les quelques 36 000 brassées qui vont les rallier d'abord au quai de Robertval, de Péribonka, dis-je, avant de revenir, bien sûr, ce qui veut dire environ 72 000 brasses sur 64 km.
Voilà le départ d'une course devenue mythique, la traversée internationale du lac Saint-Jean. C'était le 6 août 1988 à notre télé. Alors pour nous parler des origines de cette course, mon invité et les auditeurs du Saguenay-Lac Saint-Jean le connaissent bien, Jean-Pierre Girard, journaliste, animateur radio, aujourd'hui à la retraite, animateur surtout de la traversée internationale du lac Saint-Jean durant un quart de siècle, 25 ans. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Maxime, merci beaucoup de l'invitation.
Ben, merci d'être là dans nos studios donc à Saguenay. Alors, parlons d'abord de vous. Entre vous et la traversée du lac, c'est une longue histoire d'amour. Hein. Ça fait partie de votre vie depuis un petit bout de temps, ça.
Ça fait partie de mon ADN, je dirais. Écoutez, j'ai grandi sur les rives du lac Saint-Jean. J'ai vécu avec la traversée. Mon enfance a été bercée par les vagues et par les exploits des nageurs. Je n'avais pas les yeux assez grands pour les regarder s'entraîner dans le lac les jours précédant les compétitions. Un de mes plus beau souvenir. C'est produit, j'avais 8 ans. Le nageur égyptien Abdel Latif Aboui, je courais pour avoir des autographes partout. Vous voyez le genre, le petit flou fatigant, là, vous savez. Ouais. Et puis, j'avais réussi à voir Aboui. Là, je lui demande un autographe parce qu'il parlait très bien français. Et puis, il me demande, il dit, quelles sont tes prédictions? Ben, je dis, je suis sûr que vous allez gagner. Il me dit, je vais gagner, je vais remporter ça pour toi, Jean-Pierre. Et il a remporté la traversée en 1965. Et le lendemain, il a passé la journée avec moi et ma famille, puis on a nagé ensemble.
Quand même, hein?
Oui. C'est pas beau, ça?
C'est pas beau, ça. Ben, juste pour vous, hein, une victoire, ben, pas rien. Mais parlons-en des origines de cette course. Alors, comment c'est né, tout ça, la course, la traversée?
On l'a entendu un peu dans vos extraits, vous l'avez dit aussi. Là. La traversée du lac Saint-Jean, c'est le rêve de Martin Bédard. Martin Bédard, c'est un Pierre Lavoie avant l'heure, si on veut. C'est quelqu'un il voulait que les gens fassent l'activité physique. Il était originaire de Québec, il est arrivé à Robertval tout jeune. Et il ne comprenait pas pourquoi les gens ne profitaient pas de cet extraordinaire plan d'eau. Vous savez, dans les années 40-50, les gens baignaient, les gens saussaient pour échapper à la chaleur, mais ça arrêtait là. Il n'y a pas grand monde qui nageait vraiment. Là. Et puis, traverser le lac à la nage, donc, c'était complètement impossible. Ça. On ne voyait pas l'autre bord. C'est tellement assez grand. C'est impossible. Ce pauvre Martin, il est complètement fou, Martin Bédard. Puis, pourtant, lui, il y croyait. C'était un sportif lui-même. C'était un nageur. Il savait que c'était possible. Et puis, à force d'entêtement, à force de persévérance, il a réussi à convaincre les gens d'affaires, le Club Richelieu, la Chambre de commerce. Et on a profité de l'année 1955, c'était le centenaire de la ville de Roberval, pour finalement y aller avec une première édition de la traversée. Bédard a recruté des nageurs. Vous l'avez dit, ils étaient 5 ou 6, je crois, en 1955.
Sept.
Ben voilà. Là-dedans, il y avait déjà un nageur de la région, Robert Cossette, le grand Robert Cossette, le père de Christine. Il y avait aussi une jeune femme qui avait impressionné bien des gens par son courage, Louise Parenteau. Et il y avait surtout un nageur de Québec, Jacques Amiot. Alors, la journée était mauvaise, c'était du mauvais temps. Non, je dis, elle n'était pas à 55 quand même, là, mais on l'a tellement raconté.
Ben oui.
Et puis, il y a un seul nageur qui a réussi la traversée dans des conditions extrêmement difficiles, les grosses vagues, la pluie, le tonnerre, la foudre. D'année en année, on en remet, là. Mais c'était pas beau, c'était vraiment pas beau. Et finalement, il est arrivé à Roberval. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Écoutez, c'était Jacques Amiot et c'était Lindbergh. C'était pas incroyable. C'était le Edmond Hillary qui avait réussi à monter l'Everest. Là. C'était pas possible. La renommée, tout ça, était tellement grande. Il s'en est tellement parlé partout au pays que les gens ont tout de suite compris qu'il y avait là vraiment un filon extraordinaire. Oui. Alors, on a surfé sur cette vague depuis 70 ans.
Ouais, tout à fait. La légende est née. Bon, à la sauce Lac-Saint-Jean, tout est plus gros, ouais. Hein, évidemment. Bon,
Vous croyez?
C'est comme ça au pays du royaume. On va écouter les souvenirs de trois nageurs de l'époque, justement. Normand Girard, Jacques Amiot et Robert Cossette, nous parlant de cette première course en 55. Mes témoignages, donc, beaucoup plus tard, c'était à notre télé en 2005.
J'étais supposé faire en solo. On est parti, on était, je ne me rappelle pas, chez 6 ou 7 nageurs.
Moi, je pensais, comme Martin Bédard, qu'il était capable de la réussir. Mais c'était en un peu plus de 11 heures. Sauf qu'il faut que je vous dise que cette journée-là, le lac était furieux. Il y avait des orages extraordinaires, puis un vent épouvantable.
J'ai pas pensé une seconde à arrêter. Même avant de partir, j'aurais été prêt à prendre une gageure que je me rendais à Roberval.
À 1955, dans notre groupe de nageurs, qu'on prétend être des nageurs, il y avait seulement qu'un nageur, il y avait Jacques Amiot. D'autres, les 6 autres ou 7, on était juste des baigneurs. Le plus qu'on pouvait nager, c'est à peu près 1 km à 2 km. S'il n'y avait pas eu, en 1955, la traversée de Jacques Amiot, probablement, j'aurais peut-être jamais nagé non plus.
Et aucun de ceux qui s'étaient lancés à l'eau en même temps qu'Amiot n'a réussi la traversée.
On a passé pour des fous. Les gens disaient que ça ne se traversera pas. Les gens se baignaient à peine ici, au bord du lac, avant. On avait eu de la misère à se trouver une chaloupe pour me suivre. Les gens n'allaient pas sur le lac. Ils avaient peur.
Intéressant, ça vous le dit. Il n'y avait pas de tradition de natation, hein, donc Martin
non,
Bédard...
Non, vraiment pas.
On le percevait vraiment. Comment, justement, le promoteur, M. Bédard, à l'époque? On disait quoi de lui?
On disait qu'il était carrément fou.
Ah oui?
Carrément. Hein? Ah oui, non, c'était un rêveur, ça n'avait aucun sens, cette histoire-là, vraiment. Mais lui, il le savait, lui, il connaissait Jacques Amiot. Jacques Amiot avait nagé déjà beaucoup, il s'entraînait au Palais Montcalm à Québec, il avait réussi quelques exploits, il avait réussi le tour de l'île d'Orléans à la nage. Pas grand monde qui a fait ça, là. Et quand quelqu'un réussit un exploit comme ça, c'était très publicisé. D'ailleurs, dans vos extraits sonores, il y en a un, c'est pas un nageur, c'est Normand Girard. Normand Girard, c'est un journaliste très connu, originaire de Roberval, qui était chroniqueur parlementaire pour le Journal de Montréal à Québec.
Ah oui.
Et puis, il faisait partie des fondateurs de la traversée, Normand.
Oui, aux côtés donc de M. Bédard.
Aux côtés de M. Bédard, effectivement.
Parce que, bon, il faut le dire, puis ceux qui connaissent le lac Saint-Jean, oui, le savent. On n'exagère pas quand on dit une véritable mer intérieure. La première fois qu'on voit le lac Saint-Jean, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais. C'est une épreuve qui est extrêmement difficile. On va écouter un résumé de ce que représente justement cette traversée. Le journaliste Paul-Émile Tremblay, c'est à notre radio le 30 août 1969.
La traversée du lac Saint-Jean est devenue la plus grande compétition internationale dans le monde professionnel de la nage. 24 milles d'eau froide, sillonnées de courants parfois très glacés ayant leur source dans des tributaires du Grand Nord. Des vents parfois très violents, soulevant des vagues déferlant et se brisant avec un véritable bruit d'océan. Voilà l'épreuve que doit traverser le nageur qui se lance à la conquête de cette véritable mer intérieure. Voilà la lutte que doit livrer le nageur. En plus également de tenir compte de l'ennui, de la solitude, de la monotonie, des crampes, de la faim, de la soif, et que sais-je encore. Une lutte de 8 à 9 heures, sans jamais sortir de l'eau, sans jamais lâcher une seule seconde le mouvement des bras et des jambes. Voilà les difficultés que doit traverser cet athlète.
Voilà donc un résumé de ce que ça représente, cette traversée du lac, qui va devenir la traversée internationale du lac Saint-Jean. À partir de quand devient-elle internationale?
Ah, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. La renommée s'est faite rapidement. Écoutez, la deuxième traversée, personne n'a réussi. Ça ne faisait pas assez beau. Il y a eu encore des très mauvais temps. Et dès la quatrième traversée, des nageurs internationaux sont venus. D'ailleurs, la première femme à avoir remporté la traversée tout court devant tous les hommes et les femmes, là, c'était Greta Andersen, une nageuse olympique, un nom extrêmement connu qui venait du Danemark. Greta Andersen, donc, qui avait remporté la traversée. Et à partir de là, écoutez, nous avions des délégations de nageurs égyptiens. Ça venait de l'Argentine, de l'Égypte, de la France, de l'Angleterre. Des nageurs venaient de partout au monde. Et puis ça, ben, c'est comme ça depuis le début. Mm-hmm. Ça se poursuit depuis ce temps-là. Robert Valle est devenu le plus prestigieux marathon de nage en eau libre au monde. Et puis, c'est presque... La traversée pour la nage en eau libre, c'est presque ce que représente Wimbledon au tennis, si vous voulez. C'est ici que ça se passe.
C'est comme ça. Hein?
Ben oui, c'est ça, exact.
Ben, justement, vous avez... mentionné Greta Andersen à ce sujet, tiens, on va l'écouter, championne en 1958. Oui, elle a devancé tous les hommes.
Oui.
On va l'écouter, mais non pas sur la course comme telle, mais sur le caractère festif de l'événement. C'est tiré d'un très, très beau documentaire de l'ONF qui s'appelle 36 000 brasses, réalisation Georges Dufault en 1962.
Presque chaque jour, il y avait aussi des réceptions ou des fêtes. Je connaissais maintenant presque tous les nageurs, ceux surtout que j'avais rencontrés dans d'autres compétitions. L'atmosphère était très différente de celle d'Atlantic City. Ici, après quelques jours, on a l'impression d'y avoir répété depuis longtemps. On connaît beaucoup de monde. Les gens vous disent bonjour dans la rue. Avant la traversée, on a vu une grande fête avec un défilé comme en Amérique. Puis tout le monde a dansé dans les rues. Pendant ce temps-là, nous dormions pour nous lever à 4 heures. Ils dansaient toujours quand je suis arrivée sur le quai pour le départ.
Bon, on espère qu'elles ont réussi à dormir, hein, malgré la musique, parce que c'est aussi une fête, la traversée du lac Saint-Jean. C'est pas qu'un événement sportif. Il y avait cette idée aussi, dès les débuts, d'en faire un événement touristique.
Je vous rassure, ça s'est calmé un peu depuis le début des années 60.
J'imagine.
On ne danse plus toute la nuit dans les rues, mais presque. Parce qu'à l'époque, des fêtes comme ça, il n'y en avait pas tant que ça, vous savez.
C'est ça, ah oui.
Des festivals, le festival de jazz, ça n'existait pas. Là. Il y avait des festivals, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait la traversée est née en même temps que le Carnaval de Québec, en 1955. Il y a toujours une parenté entre les deux événements. Et puis, dès les premières années, il y a eu l'aspect festif qui s'est joint à ça. Ils appelaient ça à l'époque la huitaine de gaieté. Ça se poursuit encore. Donc, une semaine de festivités. Et puis, c'est extrêmement important. Ça attire des milliers de touristes. Il y a des spectacles de grand calibre également qui sont présentés à chaque année. Les plus grands chanteurs, les plus grands groupes sont venus ici se produire. Et puis, non seulement il y a des spectacles, mais il y a surtout, aujourd'hui, le célèbre souper dans les rues. Le souper dans les rues qui attire des convives, des milliers de convives sur la rue principale. À chaque année, il y a 10 000 personnes qui se regroupent sur la rue principale, le boulevard Saint-Joseph. Et on déguste, bien sûr, la fameuse tourtière du lac Saint-Jean. C'est une extraordinaire occasion de retrouvailles à chaque année. Et pour plusieurs, je vous dirais, Maxime, le clou de la traversée, c'est pas la traversée, c'est le souper dans les rues.
Bien sûr. C'est la fête, c'est l'événement qui vient.
Exactement.
Alors, parlons des champions et des championnes qui ont marqué l'événement. Il y en a eu plusieurs depuis 1955. Vous en avez déjà mentionné quelques-uns. Greta Andersen, entre autres. Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient en tête spontanément? Un ou des noms qui vous viennent en tête?
Ça, c'est cruel de me demander ça.
Mais je sais qu'il y en a eu tellement.
Il y en a tellement, effectivement. Bien, c'est sûr qu'il y a des noms qui se démarquent en particulier. Moi, je vous dirais, puis là, il y a des gens, parce qu'il y a des puristes là-dedans, là, mais il y a des gens qui me diront, bon, c'est pas vrai, t'as pas raison. Mais le nom qui me revient en tête immédiatement, là, c'est celui du nageur américain John Kinsella. John Kinsella, c'est un nageur qui est venu ici dans les années 70. C'est un nageur olympique américain, originaire de Chicago, un spécialiste du 1500 mètres. C'est pas compliqué, il y a eu un avant et un après John Kinsella. C'est lui qui a tout changé. Il a réinventé, si on veut, la nage longue distance. Avant Kinsella, la traversée, c'était principalement une épreuve d'endurance. Il fallait traverser le lac, il fallait réussir ces 32 kilomètres-là. Et avec Kinsella, c'est devenu une épreuve de vitesse. C'est, avec Kinsella, c'est devenu un sprint de plusieurs heures, mais un sprint quand même. Juste pour vous donner une idée, personne n'avait jamais traversé le lac Saint-Jean en moins de 8 heures. Kinsella le fait en 7 heures, 1 minute. Vous rendez-vous compte? Il arrivait là, avec 20 ou 30 minutes d'avance sur le second. Il a participé 6 fois à la traversée, il l'a remporté 6 fois d'affilée. On a même été obligé de changer les heures du départ à Péribonka parce que le gars, il arrivait trop de bonne heure à Robert Val. On était encore en train de dîner. Il a fallu changer. Bref, il y a eu Kinsella. L'autre nom légendaire, c'est celui de l'Argentin Claudio Plitt. Claudio Plitt, c'est le plus grand marathonien du 20e siècle. Ce gars-là a nagé 300 marathons dans sa vie. Il n'a jamais été sorti. Il n'a jamais abandonné un seul marathon. Il a participé à Robert Val à 25 traversées. Il les a toutes complétées. Il a remporté la victoire à 5 reprises. Claudio Plitt, c'est le préféré des gens. Écoute, c'est un gars extraordinaire. Il a appris le français pour nous. Il arrivait ici, il parle en français avec tout le monde. C'est un gentleman, c'est un poète. L'entendre parler de natation, c'est extraordinaire. Et c'est surtout un féroce compétiteur. Mais là, j'oublie le dernier, là, que je dans cette liste. Et c'est le plus grand, c'est Petar Stoïtchev. Petar Stoïtchev, c'est le champion bulgare qui a dominé outrageusement son sport, Maxime, comme personne d'autre l'a fait. Il a remporté la victoire à Robertval 11 fois d'affilée. Et puis quand il gagnait à Robertval, après ça, il s'en allait à Magog, puis il remportait la traversée du lac Memphrey-Magog également. 22 victoires consécutives au Québec. C'était incroyable, oui. Il a grandi dans toutes les conditions, vous l'imaginez. Il a affronté les meilleurs nageurs qui venaient partout pour se mesurer à lui. Et celui qui lui a donné le plus de fil à retordre, c'est un Québécois, Simon Tobin, qui était extraordinaire, qui refusait de le laisser aller, qui le suivait, qui arrivait même coude à coude avec lui à Robertval dans le sprint d'arrivée. Et pour se faire battre dans un sprint endiablé à une couple de reprises, je vous laisse imaginer la frénésie de la foule et de l'animateur. À ce moment-là, c'était vraiment quelque chose.
Oui, bien sûr.
Et si j'ai le temps, un petit mot sur les Québécois. Les Québécois,
oui,
quand même.
Il faut le mentionner quand même. Là. Oui.
Oui, les Québécois, bon, le plus grand, Régent Lacourcière, 15 traversées du lac Saint-Jean, Régent Lacourcière, dans les années au 20e siècle. C'est le plus grand nageur qu'on a eu au 20e siècle au Québec. On a été chanceux. Il y a 6 Québécois qui ont remporté la traversée. Jacques Amiot, Paul Wintle, Desruisseaux dans les années 50. Ensuite, Régent Lacourcière, Robert Lachance de Québec en 82, Alexandre Leduc de l'Estrie en 95 et Xavier Desharnais, il n'y a pas si longtemps, Xavier Desharnais des Cantons de l'Est aussi, qui est le seul Québécois, le seul Canadien à l'avoir remporté 2 fois en 2014 et en 2015. Et puis, ben, chez les femmes, ben, oubliez pas Christine Cossette. Christine Cossette, la fille de Robert Cossette qu'on a entendu dans vos extraits.
Oui, plutôt.
Christine Cossette, c'est la plus grande nageuse en eau libre de l'histoire du Québec. Elle a remporté la traversée à 3 ou 4 reprises. Elle a été la première Québécoise à traverser le lac Saint-Jean, première Québécoise à traverser le lac Memphrey-Magog et surtout, elle était la première, homme ou femme, à faire la traversée aller-retour, 64 kilomètres. Elle est partie de Robertval, arrivée à Péribonka, et elle est revenue. Et ça a tellement modifié la traversée, c'est qu'on a été obligé de changer ça, la formule. Pendant quelques années, ça a été un ultra-marathon de 64 kilomètres.
C'est ça, parce qu'au début, donc 32, pendant quelques années, 64, puis on est revenu je pense. Hein?
C'est même plus compliqué que ça. Au début, c'était 21 000. On partait de la pointe de Vauvert, ensuite on est parti à Péribonka, encore 5 km avant. Mais le trajet légendaire, c'est le 32 km et c'est la formule qu'on aime le plus.
Oui, tout à fait. Ouais. Dites-moi, il y a d'abord du lac Saint-Jean, il y a une communauté Innu, tout près de Robertval, Massoyatch, Pointe-Bleue, comme on disait à l'époque. Les Innu participent aussi. On dit souvent que ce sont tous dans les bateaux, dans les chaloupes. C'est une tradition,
C'est une tradition, c'est une collaboration. La traversée, c'est le théâtre d'une collaboration, je dirais, exceptionnelle entre la communauté Innu de Massoyatch et Robertval. Tu l'avais dit, deux communautés voisines. Là. On travaille main dans la main depuis 70 ans pour faire une réussite de cet événement. Et surtout avec la portion des guides. Depuis toujours, ce sont des Innu qui agissent comme guides dans les embarcations qui accompagnent les nageurs. Ils sont la vaste majorité des guides. Souvent, c'est une tâche qu'on se redonne de père en fils, Massoyatch. C'est une tâche ingrate, vous savez. C'est difficile d'être un guide. Mais c'est important parce que tu passes une journée complète sur l'eau, tu suis un nageur, c'est difficile, il faut faire ça techniquement, c'est pas si facile que ça. Mm-hmm. Puis c'est long aussi, c'est 3 à 4 km à l'heure, 5 km dans le meilleur des cas. Puis là, tu te fais brasser par les vagues, cuire au soleil, tu vas détremper par la pluie éventuellement. Bref, c'est long, mais un bon guide, ça peut faire toute la différence entre une première ou une deuxième place, ou entre une traversée réussie, oui ou non. Alors, puis moi, j'ai toujours pensé, Maxime, que c'était un peu un geste symbolique de revendication territoriale pour les Inuits. Vous venez des quatre coins du monde pour nager dans notre lac, le Grand Lac Plat, le Pequagami, qui est navigué par les Inuits depuis des milliers d'années. Ben, n'oubliez pas que vous êtes au cœur du territoire Inuit, puis c'est le message qu'on peut lancer avec ça.
Intéressant. Tout n'est pas rose, évidemment. Bon, il y a eu des événements malheureux, des tragédies. Ici, en 1966, on va écouter un hydravion qui survolait le lac et qui s'est écrasé tout près du quai de Robertval. 25 000 spectateurs étaient présents. Ils attendaient l'arrivée des nageurs. On va écouter un extrait ici à notre radio.
Et pendant tout ce temps-là, c'est le chef de la réserve indienne de Pointe-Bleue qui, lui, maintient ses canots en position. Ça semble représenter une sorte d'étoile, enfin, si on y met un peu d'imagination. C'est sans doute l'étoile que... Et un avion qui vient de s'écraser! Eh bien, voici une catastrophe. Un avion qui vient de s'écraser à l'autre extrémité du quai de Robertval. Bien, voilà sans doute un élément dramatique en cette 12e traversée du lac Saint-Jean à la nage.
Voilà, heureusement, les dégâts sont limités, seront limités. Hein. Il y a les passagers qui vont perdre la vie, malheureusement. Mais,
Il y a eu des survivants. Il y a eu des gestes héroïques qui ont été posés. Même un nageur, Gilles Potvin, qui avait participé à la traversée, mais qui avait été retiré des eaux, qui était sur le quai, qui a plongé pour aller justement sortir du monde de cet habitacle. Oui. Donc, il y a eu quelques survivants quand même. Mais on a évité une tragédie terrible parce que l'avion a passé à quelques mètres seulement du quai où il y avait des dizaines de milliers de personnes.
Tout à fait. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la traversée internationale du lac Saint-Jean, à l'ère des sports extrêmes et autres. Est-ce que ça a le même attrait? Qu'est-ce que ça représente?
Bien, je vous dirais que oui, évidemment. Vous allez me dire que je suis biaisé dans mon analyse,
je sais,
peut-être.
C'est pas grave.
mais quand même. Oui, bien, d'abord, c'est extraordinaire qu'une petite communauté comme Robertval, 10 000 habitants, réussisse à maintenir un événement de la sorte. C'est vraiment assez extraordinaire. Donc, il y a une reconnaissance internationale partout. Aussi, c'est... Écoutez, on en parle, vous et moi, aujourd'hui, là, la traversée du lac Saint-Jean, tout le monde connaît ça. C'est une référence incontournable là, qui est dans l'imaginaire des Québécois aussi. Tout le monde connaît la traversée. Tout le monde sait que c'est une compétition internationale reconnue. Et puis, bien, surtout, on a ici la meilleure organisation au monde. C'est, pour la nage en eau libre, c'est le plus prestigieux, on l'a déjà dit, mais c'est aussi là où on a la meilleure expertise, le plus d'expérience pour avoir vu d'autres marathons. Je peux vous dire qu'on est de loin les meilleurs. On sait reconnaître ici c'est quoi un nageur en hypothermie. La sécurité, c'est important. On est capable d'organiser des événements majeurs de ce côté-là. Par exemple, on a présenté à Robertval en 2010 les championnats du monde en eau libre. Imaginez, là, après Honolulu, Naples, Séville, c'était à Robertval, les championnats du monde. Ça a été un succès immense, puis ça solidifie un peu la réputation de l'organisation dans le monde entier.
Et pour venir, ce sera donc la 69e édition cet été, fin juillet, et on se dirige tranquillement comme ça vers 70 ans d'une traversée qui est devenue, mythique, la traversée internationale du lac Saint-Jean. Mon invité est un mordu, vous l'aurez compris, animateur donc de cette traversée pendant... Quoi, plus de 25 ans. Jean-Pierre Girard, animateur, journaliste, aujourd'hui à la retraite, animateur à la radio, bien connu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'en avoir parlé comme ça avec autant de passion.
Ben, croyez-moi, ça a été un plaisir. Merci beaucoup,
merci.
Maxime.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier, merci d'avoir été là. Bonne soirée. À une prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.